Les tabous, ça me les brise menus. Voilà en substance ce que pourrait dire mon invité du jour. Tabous sur les jugements préconçus, sur le corps, le poids, ou bien encore les standards de beauté, Élise Ventroux ne prend pas de gants pour casser les préjugés et autres non-dits. En cette journée mondiale de lutte contre l'endométriose dont elle est elle-même atteinte, tout comme une femme sur 10 dans notre pays, pas question pour cette Instagrammeuse de presque 25 ans de pratiquer une sorte d'utérus clausus. Les tabous, on en cause, et à haute voix s'il vous plaît. Puisqu'Élise sort le 10 avril prochain, le jour de son anniversaire, le premier épisode de Haut les cœurs, son podcast, où je le crois, elle a trouvé sa voix. Bonne écoute. Donc bonjour, bienvenue dans Where is Brian, dans un décor, on en reparlera. Magnifique. Je suis avec Élise Ventroux. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Élise. Alors, première question, comme tu le sais, comme je le dis à tous mes invités, where is Brian?
Alors, on se trouve actuellement en haut de la côte Sainte-Catherine, au Panorama.
Effectivement, pourquoi on est là?
Alors, on est là parce que quand Brian m'a demandé un endroit qui me tenait à cœur en Normandie, j'y ai beaucoup réfléchi. Et en fait, j'ai d'abord pensé à un autre endroit, mais c'est celui-ci que j'ai choisi parce que c'est un endroit où on voit tout Rouen. Et comme j'aime le dire, Rouen est vraiment ma ville de cœur. Et le fait de pouvoir la voir un peu dans son intégralité, c'est chouette de pouvoir prendre de la hauteur aussi. C'est un sens figuré qui me plaît beaucoup finalement. Et j'ai vécu, exactement, prendre de la hauteur. Et j'ai vécu à l'étranger, et quand je suis revenue ici, c'est un des premiers endroits où j'ai voulu aller justement pour pouvoir recontempler ma ville et me dire « je suis bien rentrée ». Donc voilà, c'est dans cet endroit que j'ai voulu t'emmener aujourd'hui.
Donc normande de naissance et normande de cœur?
Absolument, absolument, absolument.
Mais en gros, dans mon tour de France en covoiturage, il y a de cela presque 3 ans, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi.
Oui.
Dans mon tour de France en covoiturage, je sais plus, c'était en région parisienne.
À Igny.
Ah, t'allais voir ton ex.
Exactement.
Ouais,
exactement.
À Igny. Et en fait, tu m'avais raconté un peu ton parcours. Et donc, du coup, ça m'avait un peu séduit par la manière dont tu le racontes. Parce que tu as une manière à toi de le raconter. Alors, c'est ce que je vais faire. Comment toi, tu te définirais en fait? Parce que tu es une passeuse de parole, une passeuse de conscience. En fait, tu es quoi comme spécimen, Élise?
Je suis quoi? Alors, c'est une vaste question.
Ah oui,
Je suis quoi? Je suis moi, c'est déjà une bonne chose. Pour
ouais.
Écoute, je ne m'étais jamais posé la question. Moi, pour me définir, j'utilise souvent le mot passionné parce que je pense que c'est un des mots qui me ressemble le plus dans la mesure où justement, tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec passion et avec excès du sens.
Ouais.
Parce que sinon, ça ne me parle pas et j'estime que ça n'aura pas de sens, justement. Et donc, passeuse de parole, je ne sais pas. Mais j'aime en tout cas faire entendre la mienne de voix et ma parole parce que j'ai plein de choses à dire. Mais justement, j'aime aussi que les gens puissent dire des choses. Donc oui, passeuse de parole, mais aussi... j'ai un peu cette... Comment dire? J'aime me dire que j'ai un peu la mission de devoir libérer des paroles. Donc ça passe par la mienne, mais aussi par celle des autres. Et c'est ça qui est chouette.
Et d'ailleurs, tu veux un peu remettre en cause la vision que la société tente de nous imposer.
Oui, dans un sens... dire ça grossièrement, j'aime mettre les pieds dans le plat et balancer un gros pavé dans la mare. Et comment je devais me définir à la rigueur, comme un peu un pavé dans la mare.
Et ça t'est venu comment en fait? C'est inné, c'est comment?
Je pense d'une certaine manière, c'est inné, mais ça a mis du temps à ce que je m'en rende compte. En fait, j'ai évolué en étant beaucoup drivée par tout ce qui est tabou et non dit.
Ouais.
C'est une chose qui m'a pourri la vie pendant des années et des années. Et j'ai fait beaucoup de travail pour me sortir de ce schéma-là. Et dès que j'ai réussi à en sortir, je me suis dit « Waouh, ok, maintenant j'ai besoin d'exprimer plein de choses. » Et je sais que ces fameuses plein de choses peuvent aider plein de gens.
Et si jamais tu veux en parler, si tu es plus précis, si jamais tu as envie, c'est quoi comme tabou plus précisément? Qu'est-ce que tu as envie de briser?
Alors en fait, c'est pas un tabou en particulier, c'est vraiment le tabou en règle générale qui pour moi est un gros mot.
Ouais.
C'est en fait, ça peut être de la sexualité à la vision de son corps, à le, je sais pas, la pression au travail, la dépression, le handicap, tous les sujets en fait, il y a des tabous partout. Alors,
Donc finalement, j'ai envie de te dire, quand on regarde ton Instagram, le contenu que tu postes en général, on a plutôt tendance à se dire au premier abord, ce qui était un peu mon cas au départ, je ne vais pas mentir, ça s'adresse qu'aux femmes.
C'est ce que tu vas dire. Ah ouais, voilà. Ok.
Ça s'adresse qu'aux femmes, mais finalement, non. Pas
non.
Tant ça, les tabous touchent, bien sûr, dans plus les femmes dans certains domaines, mais également les hommes et certains hommes dans d'autres.
Non, c'est clair. Bah, c'est clair que dans les sujets que je vais aborder, bah, les femmes vont peut-être se reconnaître plus facilement, étant donné que je suis une femme. Donc, je vais parler de ce que je. Ce qui est preuve du contraire. c'est plus facile de parler de ce que je connais. Et c'est surtout que ça a plus de sens. Mais en fait, je trouve ça super chouette que les garçons puissent écouter ça, même si c'est pas forcément des sujets qui les concernent directement, mais ils font partie d'une société, où il y a des femmes qui sont la moitié de la population, donc en fait c'est aussi intéressant pour eux finalement.
Et c'est justement ma question, c'est-à-dire que comment tu arrives peut-être déjà, mais avec le podcast, comment tu vas arriver, parce que moi j'ai toujours coutume de dire que moi par exemple je parle de ces sujets régulièrement depuis longtemps. Mais même encore aujourd'hui, je me sens un peu dans un oasis, dans un désert, quoi. Quand je dis, parce que je le dis depuis des années, que je prends un exemple parmi tant d'autres, hein, il y en a des milliers, mais que les protections hygiéniques doivent être gratuites, moi, la question que les choses qu'on m'a souvent rapportées, et même des gens qui m'ont dit, mais porte tes couilles et évite de parler de ces sujets-là. Et je me sens un peu dans un oasis comme un désert. Donc, comment on fait pour convaincre des gens qui ne sont pas comme moi, quoi?
Ah, bah alors ça. J'ai pas la réponse à la question, malheureusement, j'aimerais bien l'avoir, je te jure que là, ce genre de sujet, c'est justement en faisant ce qu'on est en train de faire en ce moment que ces sujets-là vont se démocratiser et qu'on pourra avoir une réponse à un moment donné parce que justement, en fait, c'est grave qu'on puisse pas avoir de réponse à ça. Tu vois, le fait qu'on, toi comme moi, on n'arrive pas à répondre à ça, c'est bien dommage.
Parce que c'est tout le problème.
Bah, absolument.
En fait, c'est tout le problème. Les sujets qu'on traite, toi et moi, sont différents et c'est pour ça que j'avais envie de te recevoir. Mais au final, c'est un peu la même problématique.
Oui.
Le sujet, par exemple, du handicap, dont l'endométriose, on en parlera, mais on n'en parle jamais assez, mais est un handicap invisible. Elle a eu nue. Hein. Donc, en fait, moi, ce qui me fascine assez, c'est que, bien sûr, là, de même que l'handicap, quand on n'est pas concerné par le sujet, on s'en détache, voire même on s'en fout.
On s'en fout parce qu'on a tendance à avoir des œillères parce que ça ne nous concerne pas. En fait, puis ça paraît tellement lunaire pour quelqu'un qui ne le vit pas.
C'est ça.
Qu'on a du mal à se mettre à leur place. Et c'est pour ça que la libération de la parole, en fait, elle est super importante.
Mais pourquoi? Parce que la société est trop individualiste, tu dirais? Ou parce qu'on vit chacun tellement dans un prisme de notre propre problème que finalement on n'a pas le temps de s'intéresser aux problèmes des autres? Et pourquoi le faire finalement?
Ah bah alors les deux parce que on est très individualiste chez nous, ça c'est clair et net, mais on est invité à l'être aussi parce que tout ce qui nous entoure nous pousse à être individualiste, et puis là d'autant plus depuis tout ce qui est histoire de Covid là, ça a vraiment pas arrangé les choses, enfin quoi que non, que c'est à double tranchant ça aussi parce que justement il y a des gens qui se sont vachement renfermés, d'autres qui se sont dit « Ah ouais, mais là, de m'être retrouvée tout seule, j'ai envie de me tourner vers les autres. » Donc en fait, je me contredis toute seule. Mais ça fait partie de ma personnalité aussi.
Mais de toute façon, je pense que... Je sais pas si je devrais dire ça ou si je le garderais. Ah si, je vais assumer.
Allez, c'est parti. C'est les grosses révélations.
On est tous un peu un penchant pour un... On a tous un peu un côté schizophrénique.
C'est clair.
De plus en plus ou moins de mal, en fait, à assumer. Tu parles du Covid. Alors, chacun l'a ressenti comme il l'a ressenti, mais j'ai envie de dire que j'ai vu le meilleur et le pire. C'est-à-dire que, en tant qu'analyste, entre ceux qui
forcément.
Se relaient pour aller chercher du PQ, entre ceux que je voyais dans les covoiturages qui me disaient que jamais ou grand jamais il faudra de ma vie que je me fasse vacciner sous peine d'une mort imminente.
C'est vrai que t'as dû en entendre des vertes et des pas mûres parce que vu que t'as fait ton tour là pendant une bonne partie du Covid, où on s'est rencontrés d'ailleurs, on s'est connus sous masque.
Mais oui, je crois, non mais sans déconner, faut dire une chose. Je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je vois ton visage.
Mais ça se peut, hein. Dans la vraie vie, ça se peut, hein. Sincèrement.
Voilà, je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je vois ton visage.
Ah ouais, vraiment, hein.
En dehors de photos.
D'Instagram, bien sûr. Eh bien, enchanté. J'ai toutes mes dents.
Voilà. Enchanté. C'est un plaisir. Ouais, on s'est rencontrés en plein milieu du Covid, donc on était un peu dans cette atmosphère.
Ah, bah ouais, c'était un peu bizarre. On savait pas trop si on pouvait enlever les masques ou pas dans la voiture.
Sachant qu'en fait, je fais un aparté, mais c'est la spécialité.
Oui.
C'est-à-dire que même le monde de Blablacar a bien changé avec ça.
Bah
c'est-à-dire
oui.
que moi, quand c'était une conductrice, on se faisait tous la bise avant. Par exemple, on calculait pas.
Ouais, quoi. Ça a mis une sacrée barrière, du coup.
Et ça a mis une énorme barrière. Et puis d'un côté, effectivement, comme tu le dis, je trouve que ça a ouvert aussi... peut-être un champ d'une certaine solidarité qui s'est...
Bah c'est ça, et je trouve que ça a poussé les gens aussi à se réinventer, parce que vu que justement il y avait cette énorme barrière physique, bah, il a fallu voir plus loin, et c'est chouette aussi, tu vois.
Ouais. Mais de toute façon, en fait, tout ce qui nous pousse, et c'est un peu l'objet de ce que tu fais, à aller observer, voir plus loin... On utilise souvent le terme de zone de confort. Moi, j'aime pas ce terme. Parce que faut partir déjà du principe pour parler de zone de confort que tu puisses trouver un confort quelque part, sachant que le confort que toi tu es, ce n'est pas le confort de...
Ah non, c'est hyper subjectif, ça c'est clair.
N'est pas le confort de quelqu'un d'autre et c'est ultra subjectif. Mais justement, faute de meilleurs termes, tu dirais que toi, tu passes beaucoup de ton temps à sortir d'une zone de confort ou pas du tout? Est-ce que là, déjà, par exemple, tu sors de ta zone de confort en faisant ce genre d'exercice?
Alors, étant donné que je pleure parce que j'ai le soleil dans les yeux, oui.
Ouais.
Mais sinon, bah non, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, c'est un peu stressant quand même parce que c'est la première fois.
Ouais.
Mais non, je dirais pas que je sors de ma zone de confort en faisant ça. Mais... moi aussi, c'est un terme qui me chiffonne un peu, mais j'en ai pas trouvé d'autres pour remplacer. Donc, écoute, on va utiliser celui-là. Je suis quelqu'un qui a été toujours très, très, très angoissée et qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur dans la vie.
Ouais.
Et j'essaye de m'en détacher et de faire plus en plus de choses où j'essaye d'avoir un peu ce mantra qui, si ça te fait peur, fais-le. Et donc, bah, ça peut être
D'accord.
plein de choses différentes.
Ouais.
Et, mais je trouve que c'est assez puissant comme... C'est puissant et ça fait peur.
Et finalement, si ça te fait peur, fais-le. Si on part du principe que tu...
A raison gardée, bien sûr. Hein.
Alors, je t'invite, on va aller sauter. Là, on est en face. Donc vous ne le voyez pas, il y aura une photo. Mais on est en face de... Enfin, sur le panorama de la Grosse, on va aller se jeter donc, dans le vide. Et vous n'allez pas nous retrouver.
C'est parti.
Non, blague
on va sortir grandir de cette expérience.
La Twingo restera là. Quelqu'un viendra la récupérer. Non, blague à part, c'est que... Je vais peut-être un peu passer du coq à l'âne, mais tu dirais que... Dans ce que tu as essayé, dans ce que tu as entrepris, en fait, tu as des regrets ou tu n'as pas de regrets ou finalement, tu gardes toujours un peu ton slogan « faut toujours au moins essayer ». Quoi, de... Parce que tu as presque en permanence une attitude de une sorte de défi. Quoi.
Oui, on peut voir ça comme ça. Alors non, des regrets, j'en ai pas spécialement. Il y a des choses que je... En fait, je pars du principe que tout m'a amené où je suis en ce moment. Et en ce moment est un très bon moment. Donc en fait, non, il faut pas avoir de regrets, sauf si on fait des choses très graves évidemment. Mais c'est encore une fois à raison garder. Mais non, en fait finalement, tout a été expérience et tout est bon à prendre d'une manière ou d'une autre. Même les choses difficiles, tu vois. Et ça peut permettre d'aller là où on a envie d'aller et d'être une petite pierre à l'édifice.
C'est une question un peu piège et vaste.
Oula. Ok.
Comment, toi qui les combats, comment tu définirais une norme sociale?
Des normes sociales. Ça, c'est une sacrée question, effectivement.
Parce que pour combattre un ennemi, il faut savoir le définir.
C'est vrai. Pour moi, c'est tout ce qui est diktat, injonction, toutes les choses qu'on oblige à faire ou à penser d'une manière consciente ou inconsciente. Parce que justement, on est drivé par une société, par une personne, par un... normalité, où je mets des gros guillemets que ne vous voyez pas, mais normalité, et je pense que c'est bien un peu le synonyme de normes sociales, et c'est deux choses qui m'énervent énormément, tu vois. Normalité ne veut rien dire pour moi.
Mais c'est pas une question que je pose, moi-même j'ai pas la réponse, et personnellement, c'est qu'est-ce qu'être normal?
Oh là!
C'est final. Mais je te pose même pas la.
De toute façon, j'ai pas de réponse.
Je ne te pose même pas la question.
Et tu sais ce que j'en pense, surtout.
Oui, voilà. Donc, en gros, être normal, donc quelqu'un qui correspond à une norme, donc quelque chose qui n'est prêt, qui est préétabli, sachant
ouais, c'est
que
ça.
L'être humain, c'est ce que j'ai coutume à dire, on a notre ADN est constitué de, en fait, on est tous uniques.
Mais c'est ça, il n'y a rien de moins préétabli que l'humain, en fait.
Voilà. Et donc, pour t'aider un peu dans ta réflexion, tout ce qui est basé sur une norme est basé sur de la religion, des écrits, de l'histoire, de la culture, dont une partie on ne va pas nier, certes,
oui,
mais une partie qui, quand même, devrait être largement remise en cause. Et en fait, je reviens un peu, j'ai la tendance un peu de revenir à la charge.
Il n'y a pas de mal.
C'est, donc, je sais pas si on l'a dit, t'as presque 25 ans.
Oui, dans un mois. Aïe.
Et alors, et moi, quand on a 32, excuse-moi.
C'est ton problème.
Et tu casses. Fait combien de temps que tu es sur Instagram mais que tu parles en gros de ces sujets-là?
Alors, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis sur Instagram, mais on s'en fiche parce que c'était pas intéressant à l'époque, du moins à une échelle différente, mais où j'ai commencé vraiment à vouloir m'engager. Je pense que c'est né plus ou moins à la période du Covid d'ailleurs, parce qu'en fait ça s'est pas fait d'un coup,
ouais.
C'est que ça s'est fait d'une manière hyper naturelle et c'est ça aussi qui est chouette, c'est
d'accord,
que du jour au lendemain, je saurais même pas dire quand est-ce que j'ai commencé tellement ça s'est fait naturellement justement, je me suis mise à faire des posts un peu plus engagés, des
ouais,
stories un peu plus engagées,
ouais,
j'ai vu que ça mordait et puis je me suis dit ah bah chouette, ça plaît, c'est quelque chose qui moi me correspond, ça me fait
ouais,
plaisir de le faire, génial, et du coup bah petit à petit je suis allée vers ça et en fait je l'ai toujours été un peu on l'a pas dit mais je suis en école de communication,
oui,
avant ça j'ai voulu être psychologue et encore avant je voulais être journaliste,
d'accord,
du coup tu vois ça fait sens de vouloir relier des messages etc, donc si je peux le faire à mon échelle
ouais,
c'est top.
Forcément à un moment quand on combat quelque chose, à un moment donné on a voulu être dans cette norme là. On a voulu s'inscrire, je sais pas, surtout quand on parle du corps, on a voulu, je sais pas, je sais que pour beaucoup de femmes, c'est avoir un corps parfait. Donc ça veut dire s'imposer, je sais pas, ça peut être du sport ou une alimentation déséquilibrée, voire avoir des troubles alimentaires, dont on reviendra, mais énormément de jeunes femmes souffrent. Je n'ai plus la statistique exacte, peut-être que toi tu l'as, mais c'est énorme.
Dans tous les cas, sans être dans les chiffres, dans tous les cas, t'as juste à parler aux gens autour de toi et tu verras que trouve-moi une personne qui n'a jamais souffert de TCA et puis bah, franchement.
Ouais. Donc toi, comment t'as vécu ce cheminement-là? Donc toi, tu voulais à tout prix être dans la norme, non? J'imagine quand t'avais, je sais pas, moi, 14-15 ans ou quelque chose comme ça.
Alors, non. Parce que justement, ce que je te disais, j'ai toujours été un peu la bizarre de service. Sur tous les points de vue. Et j'ai toujours un peu eu ce truc de... Ça me dégoûte. Ce terme de normalité m'a toujours un peu saoulée. Mais c'est là où, du coup, le paradoxe rentre en compte. C'est que, en fait, j'ai été anorexique à 14 ans.
Mmh.
Mais pas anorexique parce que je voulais être mince. Mais parce que j'avais des gros soucis de santé mentale qui s'est répercuté, du coup, sur mon alimentation. Et en fait, mon poids a fait des énormes yo-yo depuis toujours. Donc, j'ai été donc très, très, très mince. Et après, j'ai repris du poids, etc., etc. Et en fait, c'est quand j'ai pris du poids que j'ai commencé à avoir un espèce de recul par rapport à ça. Parce
okay,
que j'ai commencé à avoir les petites réflexions. Ah, bah, tu devrais manger moins. T'étais mieux avant. Ah, avant, t'étais maigre. Mais là, pour le coup, t'es peut-être un peu trop grosse. Et là, je commençais à me dire, bah... Ok, alors que tu sais de mois à mois, ça me posait pas forcément problème. Et aller là, c'est là le moment où j'ai voulu me dire, ok, donc faut peut-être que je me formate à cette fameuse norme de dire que je devrais être plus mince, avoir plus de muscles ou je ne sais quoi.
Ouais.
Et c'est là où ça a commencé à me poser problème. Et c'est à l'âge où justement j'ai commencé à avoir un peu cette petite audience sur les sociaux et je me suis dit, ok, bah je vais faire porter ma voix parce que ce problème-là, c'est le problème de tellement de personnes que.
Ouais.
Si je peux être un peu le porte-parole à ma manière et à mon échelle, c'est parti.
C'est quand même une certaine forme de responsabilité, quand même.
Ouais.
Ouais. Surtout parce que là, on va y venir, mais on va y venir maintenant, d'ailleurs. Parce que tu vas donc lancer un podcast que tu vas appeler Haut les cœurs.
Absolument.
C'est ça. Et Je te laisse le dire, tu le lances quand ?
Alors, je lance le 10 avril, à l'occasion de mes 25 ans. Justement, je disais aïe pour mes 25 ans, mais en fait, j'y crois même pas. Et c'est juste que c'est un beau cap, et j'ai envie de passer ce beau cap en m'offrant le plus beau des cadeaux, qui est de lancer mon podcast, qui est encore un cap encore plus grand que les 25 ans.
Ouais. Et donc, j'ai plus envie de te parler finalement un petit peu... format, puisque les sujets que tu vas aborder, c'est ce qu'on aborde en fait.
Oui.
Là, tu vas être toute seule ou comment tu vas recevoir des invités, des gens connus, pas connus, je sais pas, des médecins ou...
Alors, tout ça à la fois.
Ouais.
c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. Donc, ouais. Donc voilà. Je vais d'abord être toute seule dans un premier temps parce que c'est plus simple en termes de logistique. Sachant que je suis à côté de mes études et de mon travail,
ouais.
Je vais faire intervenir des amis.
D'accord.
Qui ont des histoires à raconter sur des sujets très précis qui sont hyper pertinents, où je me permettrai pas entre guillemets de mettre des mots sur une histoire qui est pas forcément la mienne.
Ouais.
Je préfère que les personnes en parlent elles-mêmes, c'est plus simple. Là, je serai du coup un relais dans ce cadre-là,
ouais.
Mais aussi faire intervenir des gens qui sont plus spécialisés dans ces sujets-là. Et puis des personnalités, pourquoi pas, en fait, tu sais, tout est à moduler, le projet est en train de se lancer. En fait, on verra, je vais un peu me laisser porter et voir les opportunités qui s'amènent au fur et à mesure.
On te souhaite plein de bonheur avec ce podcast et plein de réussite que tu mérites au vu de ton parcours. Et je peux te le dire moi-même, et ça fait que 8 mois que mon podcast existe, mais c'est une aventure qui transforme.
Ah ben, j'en doute pas une seule seconde.
Qui transforme profondément. Je m'imaginais pas être déjà là avec toi.
Oui, c'est vrai.
Évidemment, faire ce que je fais, ça transforme et c'est de belles rencontres. Et,
ah, c'est clair. Non, et puis surtout que moi, les sujets que je vais aborder, c'est que là, du coup, je disais tout à l'heure des exemples de sujets, mais ça peut être aussi des sujets quand même assez lourds, comme du viol, des IVG, des choses comme ça. Et du coup, les personnes, soit moi, soit les personnes qui en parleront, c'est des sujets qui sont vachement...
On va attendre que lui, il part. C'est lui qui fait le plus de bruit.
C'est éblouissant, j'en ai les yeux qui...
Merci. Ça me touche. Pas de drague, bon.
Je sais même plus ce que je disais, du coup.
Non, tu disais que oui, c'était une peur de rencontre.
Sujet grave.
Ouais. Oui, sujet grave.
Et donc, donc il va y avoir des sujets qui vont être quand même graves, qui vont être abordés. Et en fait, moi, je trouve que c'est hyper riche.
Non, vas-y.
C'est hyper riche de parler de sujets comme ça avec des gens, parce que justement quand on rentre tellement dans leur intimité et des sujets aussi lourds, tu vois en fait qui est vraiment la personne, et ça, humainement parlant, c'est une richesse folle, vraiment.
Parce qu'il faut le dire aussi, est-ce que tu penses que tu peux amener facilement les gens à se confier sur des choses qui n'ont peut-être pas forcément... c'est des sujets qui sont compliqués. Donc, en fait,
Je pense que oui, parce que j'ai pas voulu être psychologue pour rien. Depuis toujours, en fait, les gens se confient à moi. Et à chaque fois, on me dit « j'ai jamais dit ça à personne ». C'est une phrase qu'on m'a souvent dit. Et au final, je le prends hyper bien, parce que ça veut dire que les gens sont à l'aise de m'expliquer certaines choses. Et donc, c'est chouette.
Parce que ce que je veux dire, c'est que j'ai un exemple comme ça. On est des êtres humains, finalement, avec des émotions.
Ah bon ?
Et oui, voilà, c'est ça.
Merci.
Et justement, pendant un covoit, il y a un an et demi, alors que je m'y attendais pas du tout, c'était une vraie surprise pour moi, il y a une femme, une conductrice qui m'a confié son viol. Et bon, là, il y avait pas de micro, pas de caméra, et c'était pas préparé, mais on est quand même pris par une émotion particulière, et c'est des choses... qui sont pas évidentes. Alors ça peut être aussi, tu ne penses pas, un moment d'authenticité, mais aussi un peu un moment à double tranchant, quoi.
À double tranchant dans quel sens ?
À double tranchant dans le sens, le truc dans un podcast, c'est que t'es dans ton moment de vrai,
mais c'est enregistré.
Tu dois aussi toucher un auditeur qui est derrière et qui écoute, quoi.
Ok. Oui, du coup, si on voit les choses comme ça, je pense que oui. Mais après. Moi, ce que je veux vraiment faire retranscrire...
C'est quoi ton message en fait, que t'as derrière ça ?
En fait, moi, ce qui va primer, c'est l'échange avec les personnes avec qui je partirai, je parlerai, pardon, ou moi, l'histoire que je raconterai. Et en fait, le nerf de la guerre de ce que je fais, c'est d'être authentique le plus possible. Et vraiment, en fait...
Mais sans faire vraiment de sensationnel autour du sujet
pas,
que t'abordes.
Vraiment pas. Parce que, bah déjà, je trouve que ça me ressemble pas. Ce serait être nier complètement qui je suis de faire ça. Et puis ça sert pas la cause en fait de faire du sensationnel sur des sujets comme ça. Et même si des fois ça peut être lourd à entendre, bah en fait c'est ça qui est authentique et finalement c'est ça qui est beau d'une certaine manière si on peut parler de beau. Et moi c'est mon parcours qui m'a amené ici. Genre vraiment autant mon parcours pro que perso et d'ailleurs même plus perso que pro, mais complètement.
C'est un peu bizarre comme question, mais cette question je vais l'assumer.
Très bien.
Est-ce que tu penses que même tes épreuves les plus terribles de vie t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui, même dans un sens quelque part positif du terme?
Ah mais absolument, et je vais même aller plus loin. J'ai fait un jeu à Noël avec mes parents. Et la question c'était, est-ce que tu changerais des choses de ton passé ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, je leur ai dit que non. Pourtant, j'ai vécu des choses vraiment qu'on ne vit pas et que je ne souhaite pas, que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Mais j'ai dit que je ne changerais rien dans la mesure où s'il ne m'était pas arrivé tout ce qui m'est arrivé, je ne serais jamais la personne que je suis aujourd'hui.
Ouais.
Et je ne serais jamais là à pouvoir en parler aux autres et à pouvoir potentiellement aider les autres. Et je le vois un peu comme une mission de vie, c'est un peu bizarre. Une divinité m'a donné ce pouvoir. Non, pas du tout.
Touché un peu par la grâce.
Ouais, c'est ça. Super, la chance. Non, mais en fait, j'ai vachement cette manière de voir les choses que si ça m'est arrivé, si je m'en suis relevée, il faut en faire quelque chose et ça m'a donné une force qui est incroyable. Et oui, ça fait complètement partie de moi et je me l'enlèverai même pas alors que Dieu sait que ça a été compliqué.
Est-ce que tu n'as pas exploré d'autres biais que le podcast, je ne sais pas, l'écriture d'un livre, parce qu'on dit qu'aussi l'écriture est salvatrice d'une certaine manière?
Alors si, j'ai toujours, j'ai pensé depuis très jeune, des choses que je peux dire déjà, qui est une partie qui, ça pour le coup, est moins lourde. Enfin si, c'est très lourd, mais moins... j'ai pas de mots, mais bref, t'as compris. C'est que j'ai perdu mon père étant très jeune et ça a conditionné la manière dont j'ai grandi et autant, comment j'ai évolué personnellement, psychologiquement, etc. Et toutes les séquelles qui allaient avec. Et en fait, déjà à l'époque, parce qu'en fait, j'ai une appétence pour l'écriture, etc. Je m'étais dit, j'écrirais un livre un jour. Et en fait, en grandissant et en ayant d'autres épreuves qui se sont mises sur mon chemin, je me suis d'autant plus dit, mes amis me disent toujours, mais Élise, c'est pas possible, il t'arrive toujours des trucs. Enfin, on pourrait faire un film sur ta vie tellement il y a des rebondissements. Ah ouais, vraiment. Et tout ça. Et donc, le livre est quelque chose qui pourrait rester dans un coin de ma tête, qui reste dans un coin de ma tête, pardon. Mais c'est pas la voie pour laquelle j'ai envie d'explorer. Et le fait que j'y dise la voie, d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est ma voix que je veux utiliser en ce moment.
Ta voix. Et justement, en parlant de voix, et j'espère que tu m'en voudras pas de ce que je vais te dire, mais comme je suis quelqu'un d'honnête,
oula,
transparent,
dis-moi,
je vais te le dire quand même.
J'ai une voix insupportable.
Non. C'est que finalement, mais dans le bon sens du terme, t'as presque un côté un peu, et comme tu parles de voix, c'est pour ça que ça me fait penser, t'as presque un côté un peu, quand on regarde tes stories, presque de théâtral, de burlesque.
Ah ouais?
Fait. C'est de dire un peu, moi quand j'ai commencé à te suivre il y a 3 ans, j'avais l'impression de suivre, une série Netflix sur les aventures, d'Élise Ventroux.
C'est vrai.
Et je sais pas, parce qu'en plus, c'est pas quelque chose que tu veux, parce que tu le fais pas forcément.
Ah non, c'est naturel.
C'est totalement naturel, mais t'as un espèce un peu dégavant que c'est, on se dit, mais c'est une caricature, mais non, c'est vrai, quoi.
C'est vrai.
Et c'est pour ça que je te dis, j'ai peur que tu le prennes mal, mais en même temps...
Ah, pas du tout. Non, c'est même plutôt un compliment.
Voilà. Ça fait partie de ton personnage, et de toute façon, moi, quand j'ai envie de dire des choses,
mais t'as bien
plutôt
raison.
Tendance
t'as
à,
bien raison.
À les dire et à pas me cacher. Mais c'est ça aussi qui m'a poussé à bien vouloir, parce que madame a un emploi du temps de ministre, vouloir te recevoir, c'est que finalement, les gens ont tendance à vouloir faire des caricatures, mais toi, en fait, on a l'impression que c'est une caricature, mais non, c'est complètement, tout est dans tout ce qui se passe et
ridicule. Non, c'est clair, et parfois, ça peut me desservir. Là, l'exemple le plus parlant que j'ai en tête, c'est là, il y a quelques semaines, j'ai fait une IRM pour l'endométriose, justement, et j'ai mis en story, j'ai expliqué un peu comment est-ce que ça se passait, le rendez-vous pour une IRM, et il faut savoir que on s'injecte des énormes tubes de gel donc dans le vagin et dans l'anus, et en fait, il faut prévoir le coup parce que ça coule, ça ressort forcément à un moment donné. Et pourtant, je le sais, hein, c'est ma quatrième IRM, je crois, mais j'ai toujours pas compris le message, visiblement. Et je suis ressortie absolument trempée, et je l'ai montré en story. Et je sais qu'il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi tu montres ça? C'est dégueulasse, c'est hyper intime. Mais on m'a aussi dit, waouh, merci de montrer ça, parce que c'est ça la vraie vie. Et là, je me suis dit, c'est ces gens-là que je veux toucher.
Mais justement, en parfaite transition, avant d'aborder la toute dernière partie.
T'as vu, j'ai.
Sur les transitions, c'est parfait. Parce que justement, effectivement, tu montres des choses que forcément, que d'autant pourraient penser, certains pourraient, tu le dis, hein, pourraient te dire, mais c'est dégueulasse, c'est pas beau, ou pourquoi tu te mets en avant comme ça. Finalement, je me rappelle d'une photo où t'avais posé nu, je crois.
Oui.
Et je me rappelle effectivement de choses. Et quels ont été les retours par rapport à ça? Est-ce que tu as des retours plus positifs, plus négatifs, ou comment tu le vis
par rapport aux photos, même globalité.
Par rapport à ce que tu dis qui pourrait faire une sorte de polémique en défiant la normalité?
Oh là, bah alors j'ai les deux. J'ai autant des gens qui... Et finalement, oui et non, parce que ces gens-là, tu sais, les gens qui critiquent, ils se montrent finalement pas tant que ça. Oui. Mais il y en a eu, bah, justement, sur ces fameuses photos nues, je sais plus qui, Jean-Paul, je sais pas quoi, qui m'avait dit qu'il fallait pas se montrer comme ça. Enfin, je me souviens même plus, tu vois, au final, j'ai oublié, donc c'est que ça m'a pas parlé, ça m'a pas marqué plus que ça. Oui. Mais je sais que par le biais d'amis, des gens qui peuvent parler un peu, blablabla. Mais en fait, je m'en fiche complètement parce que c'est que, encore une fois, c'est pas ces gens-là que je veux toucher. Non. Et justement,
mais c'est pas ces gens-là que tu veux toucher. Mais si on veut essayer de régler, enfin, d'avancer aussi, de combattre les normes sociales, indirectement,
oui, bien sûr,
il faut aussi s'adresser à eux.
Bien sûr, mais en fait. Ça c'est un peu c'est par effet de ricochet, s'ils sont touchés bah tant mieux, et s'ils le sont pas bah j'ai envie de dire tant pis pour eux. Mais moi ce qui me nourrit à faire ça, c'est que justement à chaque fois que je poste du contenu un peu décalé dans tous les sens du terme d'ailleurs, ouais. Et bah j'ai des retours absolument incroyables de personnes qui vont me dire que il faut avoir des retours de la vraie vie, c'est bien, toi aussi je pensais que j'étais tout seul, enfin toi il y a plein de trucs comme ça. Et quand les gens te remercient de poster ce genre de choses, tu dis qu'en fait tu parlais tout à l'heure de zone de confort, bah là pour le coup ça c'est une sortie de zone de confort, de se poser nu, de montrer ses complexes ou les choses comme ça. Bah par exemple, je suis hyper complexée par mon ventre hyper ballonné dû à l'endométriose, ouais. Et je le montre régulièrement. Mais en fait, c'est un peu une manière de faire un peu un pied de nez à ça et de dire, bah oui, ça me complexe, mais il y a combien de filles qui sont complexées par ça? Et si, en fait, ça peut devenir un peu la normalité.
Et quelque chose de libérateur.
C'est ça. Et de se dire, bah en fait, plus on va en voir, plus ça va rentrer dans la normalité, même si j'aime pas le mot de normalité. Mais là, du coup, dans ce cas-là, ça serait vraiment top. Et de se dire, bah en fait, oui, bah il y a des personnes qui sont comme ci, d'autres qui sont comme ça. Et mais c'est tout, ça fait partie de la vie. Les gens sont humains, c'est tout. Point.
Et tout corps est beau, finalement.
Absolument. Absolument, et c'est pour ces raisons-là que je le fais, parce que ouais, c'est ça, les gens qui de dire je suis pas tout seul, il y a en fait c'est comment dire, tu vois qu'il y a un énorme besoin de poster ce genre de contenu quand tu as ce genre de retour, parce que tu te dis OK, si les gens répondent autant et de cette manière-là, c'est qu'il y a un besoin de le faire, et c'est triste qu'il y ait ce besoin. Mais à la fois, bah, vu qu'il est là, autant faire quelque chose.
Oui, et puis, j'ai vu la statistique récemment, en plus dans ta tranche d'âge, il y a, je crois, une personne sur cinq de moins de 25 ans qui souffre de troubles dépressifs déclarés.
Donc, oui, déclarés, en plus, c'est ça.
Ça veut dire qu'il y a plein de gens, en fait, on ne sait pas.
Ouais. Non, c'est ça, c'est clair. Mais en fait, moi, je vois, j'aime beaucoup les chiffres, parce qu'au final... Enfin non, c'est pas vrai, j'aime pas les chiffres, mais dans certains cas, je trouve que c'est chouette d'avoir des statistiques, parce que ça permet de mettre en lumière certains sujets. Mais en fait, ça me chiffonne aussi dans la mesure où, en fait, c'est déclaré.
Oui.
Et mon Dieu, qu'il y a une énorme partie de l'iceberg qu'on voit pas, en fait, et c'est ça qui est dommage.
Et justement, ça m'amène à la dernière partie de cet entretien. C'est passé vite. Hein. Dernière partie, donc plus spécifiquement sur l'endométriose, qui, je crois, alors pareil, hein, même chose, hein, déclaré, c'est une femme sur huit. Une femme sur dix qui est touchée déclarée.
Hein, ça veut dire, ouais, c'est ça.
Pour des personnes qui ne sauraient pas ce qu'est cette maladie, comment tu la décrirais?
Alors, l'endométriose. C'est donc une maladie qui touche les femmes, du moins les personnes qui ont un utérus. Et pour schématiser ça, moi j'explique toujours qu'en fait quand on a nos règles, il y a un petit truc qui se décroche et qui va faire sa vie dans les règles et puis qui s'échappe. Et en fait quand on a l'endométriose, il y a un petit bout de tissu qui, plutôt que de s'échapper, va aller se crocher dans ton corps. s'y accrocher et puis bah, faire le bazar parce que ça va nécroser les parties sur lesquelles ça se dépose et puis bah, en fait ça fait extrêmement mal. Et ça peut causer des gros problèmes d'infertilité et de sacrées douleurs au quotidien.
Parce qu'en fait, c'est presque... Pardon, c'est pas presque, c'est multi, en fait, latéral. Ça peut toucher beaucoup plus de choses qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à voir avec le vagin. Ou
ça
les
peut aller jusque dans les yeux, jusqu'au cerveau. Bon, ça, c'est dans les cas vraiment extrêmes. Ouais. Mais dans la plupart des cas, ça peut toucher les ovaires, l'utérus, le vagin, l'anus, le rectum, les intestins, les ligaments utérosacrés, la vessie. Ça reste quand même dans le bas ventre dans la plupart du temps. Mais oui, ça... C'est pas juste lié au fait de pouvoir avoir des enfants ou pas.
Et donc, tu vois, je vais me confronter à une norme sociale, tu
Dis-moi.
Vois, en plein enregistrement, parce que en tant qu'homme, ça fait bizarre de se poser la question, mais quand t'as été diagnostiqué quand et tu t'es dit, genre, t'as des règles douloureuses ou c'est venu comment en fait?
Alors en fait, j'ai été diagnostiqué à 19 ans. Donc moi j'ai de la chance entre guillemets parce que j'ai été diagnostiquée super tôt. En moyenne c'est 7 ans pour avoir un diagnostic et la plupart des femmes se font diagnostiquer parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc toi c'est pour dire qu'à quel point c'est tard parce que il y a ce truc de dire c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Bref, moi cette phrase me rend folle. Et du coup moi j'ai été diagnostiquée parce que en fait j'avais plein de symptômes et un jour je sais plus qui parlait sur les réseaux sociaux, d'où la force des réseaux sociaux, je trouve ça génial. Bref, c'est un autre sujet. Quelqu'un parlait dans les trucs, je me suis dit c'est quoi? Ma curiosité m'a amenée à aller voir sur internet et je me suis dit mon Dieu, mais j'ai tous les symptômes. Et du coup j'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit, et note bien cette phrase, ah oui, j'y avais pas pensé avant. Bon on va faire une IRM du coup et puis, et puis voilà. Donc j'ai fait l'IRM et puis effectivement elle s'est vue. Mais c'est là où c'est vicieux, c'est qu'en fait ça aurait pu ne pas se voir parce que l'endométriose est une maladie qui est très vicieuse dans la mesure où elle peut être très étendue et pas faire mal ou être très peu étendue et faire extrêmement mal. C'est des degrés de profondeur etc. C'est un peu compliqué mais c'est une maladie qui est vicieuse et qui justement aide pas à ce qu'elle soit mieux comprise.
Et justement... D'après toi, pourquoi finalement elle reste finalement si peu, à mon échelle, je dis si peu comprise? Pourquoi à ton
avis? Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat.
Vas-y.
Et je sais qu'il y a des gens que ça énerve énormément quand je dis ça, mais parce que c'est une maladie de femme en fait. On s'en fout. C'est une maladie de femme et en plus, c'est une maladie qui ne tue pas. Donc, on s'en fiche encore plus. Alors que c'est une maladie qui est extrêmement douloureuse et qui est très handicapante. Mais vu qu'elle ne tue pas et que ça concerne les femmes et qu'il n'y a aucun rapport avec les hommes là-dedans, on ne s'y intéresse pas plus que ça.
Il y a cette phrase, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Alors, je ne sais plus d'où elle est cette phrase. Je me dis, si un homme avait un utérus et devait être en capacité d'avorter, tu pourrais trouver une pilule dans un distributeur de billets. Mais c'est exactement dans l'état dans lequel la société régit depuis
bien sûr.
Plus de 1000 ans. On saluera d'ailleurs un peu ironiquement nos amis américains qui ont fait des énormes marches arrière sur le sujet avec l'abandon de Roe v. Wade, qui est donc l'ancienne jurisprudence constitutionnelle qui donnait un droit fédéral à toutes les femmes d'avorter.
Ouais.
Résultat, on est revenu avec des concepts qui n'avaient rien à voir et qui n'ont rien à voir avec l'avortement, mais qui touchent quand même.
Mais ça fait partie du sujet quand même.
On notera récemment, là je l'ai appris il y a quelques jours, ça m'a fait grincer les dents, que dans l'état du Missouri, un bel état bien réac du sud, je veux pas faire de caricature, mais bon,
dans
le problème c'est que cet état s'auto-caricature lui-même. Ils ont fait une loi dans cet état que les femmes ne pouvaient plus porter certains types d'habits au sein de leur assemblée.
Nous sommes au Moyen-Âge, bonjour.
C'est-à-dire que c'était que... Ah oui, il fallait qu'elles couvrent...
Ils saluaient cette belle loi.
Il fallait qu'elles couvrent leurs épaules. Il n'y avait aucune loi.
Mais de toute façon, les Américains, je pense que c'est devenu un hobby pour eux de sortir les lois les plus hallucinantes possibles sur les femmes en ce moment. C'est la nouvelle lubie là, des derniers mois / années.
Alors, c'est sûr que je veux faire cet aparté-là parce que c'est important, en fait, même comme manière dont on réagit en France. C'est-à-dire que quand on parle de lois qui permettent des progrès sociaux en faveur des femmes, c'est des lois, en fait, où il faut toujours se battre, c'est jamais acquis, quoi. Mais tous l'imaginaire, un peu, dans des pays comme les États-Unis. Tout est en fait acquis, mais regardez, les États-Unis, un pays, soi-disant, entre guillemets, civilisé, riche, etc.
Entre guillemets, ouais.
Qui sont capables de revenir au 19e siècle. On est carrément dans des états, comme le Missouri, le Mississippi, le Texas, on est revenu.
Ah non, mais c'est clair. Et moi, ça, c'est quelque chose que je trouve carrément révoltant parce que c'est ce que tu disais, en fait, le droit des femmes, c'est un truc qui est jamais acquis et nulle part, hein, ceci dit. Et les femmes doivent toujours se battre. Il n'y a jamais rien de simple, tu vois, comparé aux hommes. Et ça peut être un peu caricatural de dire ça, mais c'est vrai, en fait. Ça fait grincer les dents des gens. Mais non, en tant que femme, c'est vrai que tout est compliqué.
Et tu dirais quoi à un homme qui n'a pas conscience de ça du tout?
Ben. En fait, ça dépend. Ça dépendrait de l'échange et de son ouverture, parce que pour le coup, c'est un sujet qui pourrait très vite m'énerver, parce que étant déjà directement touchée par le fait d'être une femme, mais aussi parce que je trouve que de pas en avoir conscience, ça relate d'une imbécilité humaine très profonde. Voilà. Voilà. Donc,
c'est cash.
Ah ben, parce que oui.
Par contre, alors c'est pas un reproche que je
fais,
mais je suis obligé de le dire.
Je t'en prie.
C'est un peu comme avec le vaccin Covid. T'auras du mal à convaincre les gens.
Ah, mais bien sûr.
À les faire s'ouvrir si tu te dis, en fait, t'es un imbécile.
Non, mais bien sûr. Après, tu vois, mon but n'est pas forcément de convaincre les gens. Mon but est de donner mon point de vue.
Ouais.
D'en débattre, parce que c'est aussi très chouette de pouvoir débattre. Et puis, j'ai absolument pas la science absolue. Tout ce que je dis n'est pas la vérité vraie. Et c'est bien aussi justement de pouvoir s'enregistrer des autres, mais si je te convainc pas.
Mais justement, parce que tu me dis que tu voulais être journaliste au début, et en fait être journaliste, c'est se confronter.
C'est pour ça que je ne suis pas journaliste.
Tu te verrais débattre avec un masculiniste sans vouloir lui péter la gueule, pour parler franchement.
Je pourrais commencer à débattre, mais très vite ça pourrait dégénérer.
Ouais. Non, mais et donc en fait, pour revenir à l'endométriose, donc en fait, donc tu le dis, bien sûr, par contre, je suis d'accord, hein, c'est une maladie de femme, donc en fait, on s'en fout. Donc c'est quoi? C'est constitutif à un manque de moyens, une flemme des gynécologues de ne pas vouloir diagnostiquer, ou...
Alors les deux. Les deux, c'est clair qu'il y a un manque de moyens parce que y a pas assez d'études sur le sujet, et les études, ça coûte cher et... On décide pas forcément de mettre l'argent là-dessus pour les raisons que je viens d'évoquer, mais c'est aussi faut pas toujours jeter la pierre aux médecins, dans la mesure où ce que je disais, c'est une maladie qui est hyper difficile à diagnostiquer parce qu'il y a pas une seule endométriose qui est pareille. Selon les femmes, ça varie énormément, donc c'est compliqué. Et puis ça peut être d'autres maladies aussi, c'est ça le problème. Mais il y a aussi un peu un manque de professionnalisme de certains médecins, dans la mesure où comme c'est une maladie qui est compliquée, il y a parfois aussi cette espèce de sorte de flemme de se dire « Oh, il va falloir que je parte à la recherche, il va falloir faire X ou Y examen. » Et puis, tu sais, t'as des médecins qui mettent vachement une barrière, la fameuse phrase du « c'est normal d'avoir mal » et de pas vouloir chercher plus loin. Et se dire « Oh, faut encore une qui trouve que c'est une maladie à la mode, elle a vu ça sur Instagram et elle veut aller faire un petit dépistage. » Et ça, c'est, mon Dieu, c'est très, très, très fréquent.
Mais justement, comme on approche de la fin de notre entrevue, j'ai toujours deux, trois questions un peu cash, lesquelles j'aime bien un peu, genre de pas de punchline, mais un peu quand même mettre les pieds dans le plat, comme tu dis. Est-ce que tu penses que le métier de gynécologue ne devrait être exercé que par une femme? Je m'explique pourquoi je dis ça. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que, dans un terme purement lexicologique, en allemand et même dans d'autres langues, gynécologue se dit Frauenarzt, ça veut dire médecin pour femme.
Littéralement.
Et littéralement. Et tu as des débats de ce genre qui dit qu'un ou une gynécologue, c'est un métier qui touche à l'intime et donc ne devrait être exercé que par une femme. Tu en penses quoi?
Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'en ai parlé justement il n'y a pas longtemps sur Instagram. Moi, je suis pas d'accord, en fait. Chacun peut exercer n'importe quel métier. Je trouve qu'il ne devrait pas y avoir ce type de barrière. Un comportement adapté, ça est extrêmement nécessaire, oui, mais par contre, ça ne me dérange pas d'avoir un homme gynéco, j'en ai déjà eu, qui était parfois même plus doux que des gynéco-femmes, parce que, faut pas croire, les gynéco-femmes ne sont pas forcément toujours très très douces, vu qu'elles savent, entre guillemets, ce qui se passe, ils y vont moins avec des pincettes, alors qu'un homme, justement, enfin, en tout cas, celui que j'ai eu en particulier était très doux et me demandait très souvent s'il me faisait mal ou pas parce que, ne connaissant pas cette partie, la connaissant, mais ne vivant pas les sensations. Il était justement beaucoup plus à l'écoute, ce que j'ai trouvé du coup très chouette. Pourtant, j'étais jeune et ça aurait pu me mettre très mal à l'aise d'être nue devant un homme. Je l'étais effectivement, mais en fait, c'est à la barrière du médecin et de se dire, mais c'est mon médecin, un homme ou une femme. Moi, je trouve que quand tu es chez le médecin, tu devrais pas te poser la question si c'est un homme ou une femme, c'est un médecin. Point.
Ouais, en termes d'éthique, en ouais, fait, c'est un médecin. Ouais.
C'est ça. Et après, bah, il y a des sacrées dérives. J'en parlais justement avec ma sage-femme actuelle, qui est absolument incroyable. Et je l'ai remercié pour ça parce que moi, je suis pas quelqu'un d'hyper pudique. Je sais qu'il y en a qui le sont. Et que d'aller voir un médecin, justement, pour montrer son intimité, c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour des gens. Et donc, c'est vraiment, c'est primordial d'être top à ce niveau. Et en fait, elle me disait, mais j'ai plein de patientes qui viennent me voir. Elles sont traumatisées par des gynécos hommes ou femmes. Mais bon, malheureusement, c'est plus souvent par des hommes. L'exemple le plus frappant qu'elle m'avait donné, c'était, t'auras peut-être pas du coup le contexte parce que tu n'es pas une femme et tu n'as pas fait d'échographie de ton utérus, mais
effectivement, ça c'est un manque.
Mais c'est quelque chose que tu peux faire allonger et que tu fais allonger. Et en fait, ce fameux gynéco demandait aux femmes de se mettre en position de levrette pour faire une échographie que tu peux faire strictement allonger. Voilà, donc ça en dit long. Mais pour autant, c'est un exemple extrême, mais qui ne veut pas dire que... Enfin, moi, je suis pour répondre à ta question, pour moi, homme ou femme,
ouais, tu sais pas, en fait... Et donc, souvent, qui dit... Enfin, pour quelqu'un d'extérieur, je parle, qui dit handicap invisible, qui dit, par exemple, manque de tolérance, ou est-ce que parfois, toi-même, comme moi, mais pour d'autres raisons, est-ce que t'as été confronté à des remarques je sais pas moi, dire mais pourquoi celle-là elle a un problème, ou pourquoi si tu dois passer devant à une caisse, pourquoi, qu'est-ce que t'as, ou pourquoi tu dois prendre un ascenseur, ou je ne sais pas.
Alors oui, parce que c'est des douleurs qui sont là, et en fait t'apprends à vivre avec les douleurs, et puis en fait ça se voit pas forcément que t'as mal. Tiens d'ailleurs je vais t'avouer un truc, tout à l'heure j'avais extrêmement mal au ventre, j'imagine que tu t'en es pas rendu compte, mais parce qu'on apprend à vivre avec. Mais pour autant, tu vois, si là tu m'avais demandé d'aller faire un truc un peu physique, une promenade, une marche ou que sais-je, j'aurais pas été capable de le faire.
On va le faire après.
Mais non, ça va mieux là. Mais oui, carrément, parce que justement, par le fait que ce soit invisible, les gens ne se rendent pas compte. Et t'as ce truc de dire, ouais, c'est une chochotte, elle en fait exprès, elle a la flemme de faire ça. Du coup, enfin, tu sais, c'est un peu une excuse. Et des fois, il y a des gens qui disent, oh ouais, ça va, l'endométriose, elle a bon dos.
Ah ouais.
Et cette phrase, mais mon Dieu, c'est parce qu'on se rend pas compte. Mais pour tous les handicaps invisibles, ceci dit, parce que justement, comme on le voit pas, je suis une fille sur Instagram qui est géniale à ce propos, ça s'appelle Marie Chacha. Je sais pas si tu la connais.
Non.
Elle a de la myopathie, de l'endométriose et une autre maladie que j'ai oubliée. Et en fait, elle en parle tout le temps, et que elle, ok, elle veut montrer sa carte d'handicapée pour qu'on la laisse passer,
ouais.
Et qu'à chaque fois, ça ouvre des débats. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là, mais je suis sensible au sujet et je trouve ça aberrant. Mais alors, mon plus gros souci, moi, c'est au travail.
Ouais. Ah ouais.
Pour s'il y a des jours que je dois louper le travail ou être en télétravail parce que j'ai très très mal,
ouais.
Ça pose problème.
Ça pose problème, mais d'ailleurs. On me signale que l'Espagne a fait voter vient de le faire là il y a quelques jours, un congé menstruel.
Génial.
Chose qui dont les Français et les autres feraient bien de s'inspirer.
Ah mais vraiment. Parce que sans avoir l'endométriose, tu peux avoir des règles difficiles et ça te diminue vraiment au quotidien. Ça c'est des lois qui sont beaucoup votées par des hommes. Je défie quiconque d'aller se passer une journée dans la vie de quelqu'un qui a des règles douloureuses.
C'est ça.
Et on en reparle après.
Mais justement, avant ma dernière question, c'est que en fait, pendant, on va dire que globalement, le droit des femmes, on a commencé à partir grosso modo des années 1920, mais en gros, jusqu'en 1920, c'était un monde dirigé par des hommes, pour des hommes. Et on n'en parle jamais, mais même par exemple la manière dont les sièges de voiture sont réglés, c'est réglé aussi pour des hommes. C'est tout en fait.
Mais beaucoup.
Tout en fait, les aspects de la chaîne a été pensé.
On s'en rend juste plus compte parce que c'est devenu notre normalité, mais c'est vrai que tout est conçu comme ça. Hein. Ça, c'est clair que.
Ouais. Dernière question.
Dis-moi.
Et donc là, très honnêtement, sans filtre. Donc bien sûr que. Tu te revendiques donc féministe, hein, naturellement. Est-ce que parfois certaines choses que tu peux voir, ou des chiffres, ou des ressentis, ou des témoignages qu'on peut te donner ou te livrer sur les violences masculines, te poussent à avoir un ressenti un peu généralisé à l'égard des hommes ?
Très bonne question. C'est une super bonne question. Alors, non. non, autant ça me révolte. J'ai vraiment ce truc de me dire, mais mon Dieu, des fois, c'est vrai que je le pense, hein, mon Dieu, vous tous les hommes, là, et tout à concerner, non, je rigole, vous êtes tous des gros dégueulasses. C'est vrai que ça peut m'arriver de le penser, mais pour autant, non. Pourtant, je sais que mon histoire personnelle pourrait m'amener à penser ça. Mais non, parce que justement, moi, je suis foncièrement humaine et j'aime les humains. Ouais. Et en fait, j'aime à croire que chacun est bon jusqu'à preuve du contraire et que il faut pas mettre tout le monde dans le même panier et que c'est pas parce que il y a des gens qui sont très problématiques que tous les hommes sont problématiques. Et ce serait de penser ça qui serait problématique justement.
Je suis tout à fait d'accord. Enfin, voilà. En même temps.
Non, mais j'en doute pas une seule seconde.
Ça va être difficile de te dire le contraire. Bah écoute, merci beaucoup.
Mais avec grand plaisir.
C'était vraiment un plaisir et j'espère que ça t'a plu. Bah voilà, un final. Parfait. Bah, je viens faire le feu d'artifice.
Jusqu'au bout, exactement. Voilà. Oui, ça m'a beaucoup plu et j'ai hâte de toi te recevoir sur mon podcast pour parler de tout autre sujet.
Je le dis là avec grand plaisir. J'accepte avec plaisir et cette invitation.
Parfait. Génial.
Merci beaucoup à toi et à la prochaine.
J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse pour finir cet épisode avec une anecdote bien sympathique. Après cette interview fort venteuse, vous l'aurez remarqué, nous avons eu un arc-en-ciel, un très joli arc-en-ciel, un peu symbole de notre discussion avec Élise, où on a discuté vraiment de sujets divers et variés. Et je remercie la météo de nous avoir adressé ce si joli clin d'œil. Allez, bisous les amis et à la prochaine.